Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour et soyons clairs, parlons eh bien, de la place du cinéma en France. Près d'1 million d'entrées la première semaine pour Red Dingue de Danny Boone, contre moins de 10 000 entrées pour le dernier Ang Lee, dont on a parlé la semaine dernière ici, ou le Yourself and Yours de Hong Sang-soo, dont tu vas nous parler aujourd'hui, Manu. Écarts sont flagrants.
Bah oui, on était 4 dans la salle le jour de la sortie d'ailleurs.
Alors ce sera ça, le Hong Sang-soo et un autre film
Ce sera donc Ring, enfin le cercle, Rings au pluriel, d'un Espagnol qui s'appelle Gutiérrez.
Et bonjour Marine, et toi ce sera...
Alors moi après La La Land, je vous parle d'un autre candidat sérieux aux Oscars, à savoir Jackie, le nouveau film de Pablo Larraín avec Nathalie Portman.
Et tu évoquais La La Land qu'on a beaucoup apprécié, et donc ça nous donnera l'occasion aujourd'hui de jouer un blind test spécial comédie musicale, donc on pourra écouter 5 extraits et il faudra deviner eh bien, les films qui se cachent derrière ces extraits. Quant à moi, je vous parlerai d'un succès qui se profile pour Moonlight de Barry Jenkins, mais je vais débuter avec American Honey de Andrea Arnold, c'est un film qui sort le 8 février.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
American Honey d'Andrea Arnold a obtenu le prix du jury du dernier festival de Cannes, qui a vu gagner cette année donc Ken Loach. Alors même si je n'ai pas pu voir le film du Britannique, je vois bien la cohérence du jury cannois à célébrer un réalisateur ancré dans le social pour la Palme d'Or et à remettre en lot de consolation, hein, c'est le prix du jury, un prix à une collègue britannique qui elle aussi s'ancre dans le social. Mais si Ken Loach nous colle tout près d'un menuisier anglais incapable de manipuler une souris d'ordinateur... C'est ce que j'avais retenu de ta chronique, Marine. Sa collègue... Ah, c'était toi, Manu. Sa collègue Andrea Arnold choisit de nous emmener dans le Midwest américain aux côtés de jeunes gens un peu déboussolés pour un road movie rythmé de musique, de cris, d'amour, de violence et d'entourloupe. Alors, on est avec Star, donc oui, c'est Étoile, 18 ans, qui va rencontrer sur un parking de supermarché de l'Oklahoma où elle fait les poubelles, Jack, incarné par Shia LaBeouf, qui, alors lui, c'est un super vendeur dans une troupe de jeunes Américains sillonnant les routes du cœur des États-Unis pour fourguer des abonnements à des magazines. Alors, c'est un boulot qui n'a rien d'amusant, mais eux le font avec de l'entrain, de l'alcool, un peu de drogue et beaucoup de musique. Hein. Ils forment un groupe, ils se retrouvent sur les routes dans un minibus, sont lâchés ensuite dans les rues de la ville avant de se retrouver dans ces hôtels de bord de route comme le cinéma américain en est garni. Jack tape dans l'œil de Star qui décide d'abandonner son quotidien foncièrement glauque pour cette troupe composée d'une quinzaine de personnes et dirigée par Crystal. Alors l'interprète n'est autre que la petite fille d'Elvis Presley. Le groupe de vendeurs, lui, est composé de marginaux ou d'excentriques, voire de libertaires qui n'aspirent qu'à une chose, gagner de l'argent et puis s'amuser. Alors, comme Star n'y connaît rien à la vente, eh bien, elle est accompagnée dans son apprentissage par Jack, et ça tombe très bien puisque ça permet de composer un trio amoureux, car Jack en pince pour Star, mais garde le lit de la chef de groupe, accessoirement directrice commerciale. Voilà qui promet quelques tensions, et on a presque envie de dire ouf, puisque cela ajoute du rythme à un film qui dure 2h40 et qui se construit de la même manière, le petit tour en minibus avec de la musique, l'exercice de VRP donc dans la ville, et le retour eh bien, à chaque fois, chaque jour, chaque soir dans l'hôtel. Les paysages changent, tout comme les cartes d'une Amérique qui oscille entre foyers aux revenus modestes et franchement pauvres. Ces jeunes, on l'imagine, sont les rejetons d'un pays qui ne fait plus rêver. Alors des rêves, il en est d'ailleurs question. Quand on lui demande quel est son rêve à Star, eh bien, elle explique qu'on ne lui a jamais posé cette question. On écoute, alors juste pour avoir un petit avis, parce que la musique est très importante, c'est une musique qu'on écoute quasiment toutes les 3 minutes. Et j'ai condensé cette bande originale en 1 minute 30.
I'm a nigga 7 days a week. We out, don't get tired, I let you order niggas sleep. Still with my niggas and we flexin'. I make my own money so I spend it how I like. I'm just living life. Deserve.
pick you up.
Voilà, je pense avoir été exhaustif avec ce petit montage. Donc, c'est toute la musique du film American Honey. Alors, la réalisation est entièrement faite en caméra épaule, au plus près des personnages, avec des images volontairement lumineuses et colorées. Pour rythmer les séquences, donc, la réalisatrice ajoute des musiques qui sont exclusivement diégétiques, donc dans l'histoire, et qui soudent les personnages. Alors, la plupart du temps, bien, ces musiques, on s'en aperçoit, sont plutôt générationnelles. Hein. C'est plutôt des musiques de jeunes, à quelques exceptions près. Il y a des choses aussi, notamment la chanson American Honey, qui, bon, n'est pas du tout, je pense, une musique écoutée par les jeunes actuellement, mais qui est une transmission. Et alors, ce qui ajoute, tout ça ajoute une touche documentaire prise sur le vif. Le plus étonnant réside peut-être alors dans le choix d'une image 4 tiers, donc complètement étriquée. Hein, c'est vraiment l'image qu'on avait dans les télés il y a quelques années encore. Il s'agit de resserrer le point de vue sur les personnages. Habituellement, le road trip s'illustre avec une image qui peut aller jusqu'au cinémascope, qui privilégie les grands espaces. Là, pas du tout. Le souci de la réalisatrice est autant le groupe que son personnage principal, qui éprouve la liberté. Mais le regard porté sur ces jeunes est quelque peu alors désenchanté. Celle qui compte l'argent et les stimule à mieux vendre, leur manager, donc Crystal, la fameuse petite fille d'Elvis Presley, impose des règles parfois cruelles. Ce groupe n'est pas une utopie, il n'est pas en dehors du capitalisme, on n'a pas là des néo-hippies. L'argent et plaisir semblent guider le groupe, un peu court peut-être pour un film d'un peu moins de 3 heures. En tout cas, American Honey de André Arnold, malgré son temps très étiré, n'est absolument pas ennuyeux. Ça, c'est quelque chose. Et pourtant, il manque quelque chose.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Alors, on va passer à un film beaucoup plus court, hein, d'une heure 20 à 25 à peine, avec Yourself and Yours. Alors, depuis 20 ans, hein, et près de 20 longs métrages au compteur, hein, Hong Sang-soo décline le même thème à travers une série de films stupéfiants qui pourraient lasser sur la durée si le réalisateur n'était pas devenu un véritable maître de la variation. Alors, chacune de ses œuvres est à la fois identique et différente. Par de subtils déplacements, hein, l'univers du coréen séduit constamment. Après le splendide « Un jour avec, un jour sans » sorti il y a un an pile, hein, en fait, il revient avec un drôle de marivaudage. Hein, « Yourself and Yours » raconte une histoire très simple dans le sillage du cinéma de Romère, mais un Romère un peu excentrique, hein, qui aurait un peu trop abusé de liqueurs alcoolisées, car la boisson chez Hong Sang-soo occupe toujours une place centrale. Et puis surtout, et toujours, l'amour, ou plutôt le charme de la rencontre, de la première fois, instinct aussi éphémère que précieux. Alors Yung-soo, un peintre, vit avec Min-jung qui a un léger penchant pour l'alcool. Mais par amour, elle a décidé d'arrêter. Alors chez Hong Sang-soo, arrêter, c'est particulier. Hein. Elle lui a promis de ne boire que 5 bières et 2 verres d'alcool locaux par jour.
C'est réduire.
C'est réduire. Hein. Or, Yung-soo apprend par un ami qu'elle s'est enivrée avec un autre homme et s'est battue avec lui. Elle nie, lui jurant que ce n'était pas elle, et décide de partir, voyant qu'il ne lui fait pas confiance. Alors malheureux, il décide le lendemain de partir à sa recherche et de lui pardonner, quitte à accepter qu'elle boive. Alors pendant ce temps, Min-jung, ou sa sœur jumelle, puisqu'il est question de double pendant tout le film, rencontre d'autres hommes dans des bars. Alors, Yourself and Yours confirme la virtuosité absolue d'un cinéaste remettant à plat l'idée conventionnelle que l'on se fait d'une grande mise en scène. Alors, ce n'est pas seulement des mouvements d'appareils complexes, une belle photo ou un montage très efficace. Avec une étonnante économie de moyens, Hong Sang-soo développe une histoire passionnante, drôle et mystérieuse en étirant chaque plan séquence jusqu'à saturation. Alors, sans jamais donner l'impression d'exhiber un dispositif gratuit. Alors, les cadrages n'ont rien d'artificiel, de poseur, ils sont d'une désarmante simplicité. De même que les zooms peuvent surprendre sur le coup, effet anachronique dont le cinéaste tire le meilleur. Alors chaque scénette est exploitée jusqu'au point de rupture. Et en même temps, Hong Sang-soo n'ignore nullement la force du hors-champ, laissant beaucoup de zones d'ombre et de non-dits à son intrigue, qui curieusement se ferait un passage souterrain du côté de, alors là c'est surprenant, de Vertigo d'Hitchcock et même de Mulholland Drive. Alors Min-jung est-elle mythomane ou a-t-elle réellement une sœur jumelle? Même si la première proposition semble davantage plausible, le réalisateur se garde de toute explicité. Alors, de même, comment le peintre s'est-il cassé la jambe? Alors, je me demande si ce n'est pas un hommage supplémentaire à Hitchcock et notamment à Fenêtre sur cour. Ou encore, notamment lors du dernier tiers du film Terrassant de beauté, est-ce que c'est le fruit de l'imagination de Yung-soo ou est-ce que les retrouvailles entre les amants sont-elles réelles? Alors Aung San Suu, sans jamais nous perdre, gardant toujours la bonne distance entre émotion contenue et comique de situation, réalise au fond une magnifique histoire d'amour animée d'une folie douce. L'auteur semble nous dire que l'amnésie, volontaire ou non, est la seule condition absolue de l'amour, ou du moins la seule manière de maintenir l'illusion de la première rencontre. Obsession récurrente, et je dirais même quasi pathologique, chez l'auteur de I, One et les Hommes. L'idée est belle, abordée avec un sens aigu de la dérision, tout en dérivant vers le surnaturel, élément le plus troublant de cette comédie romantique un peu spéciale. Alors, Yourself and Yours est aussi le portrait trivial d'une jeune femme libre, ne supportant pas les reproches, la morale, capable de mentir ou d'inventer un personnage pour éviter les redites et réinventer à chaque fois une situation nouvelle. Alors, ce qui nous vaut des scènes d'une drôlerie inouïe, écrasant sans problème, je dirais, toutes les comédies sorties en salle depuis des lustres. Parce que ça, c'est oublier que le film est très très drôle. Même si on n'était que 6 dans la salle.
Vous avez ri à gorge déployée.
À gorge déployée. Eh oui. Je dis 6, je ne sais plus, 4, 10. Enfin, c'était moins de 10.
En tout cas, moins de 10 000 en France.
Voilà, dont 3 personnes que je connaissais. Voilà, donc je le revendique et pour moi, c'est le premier chef-d'œuvre de ce début d'année.
Voilà, donc préféré Aung San Suu à Danny Boone. C'est ça.
Exactement. Voilà la lande.
Alors, avant de retrouver le blind test comédie musicale, nous allons passer eh bien, à un genre que le cinéma hollywoodien adore, c'est le biopic.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Oui, on continue avec Jackie de Pablo Larraine. Une semaine à peine après l'assassinat de son mari, Jackie Kennedy accepte de recevoir un journaliste chez elle. Affichant d'abord une méfiance réciproque, il se prête peu à peu à l'exercice de l'interview, tout l'enjeu étant naturellement de savoir qui manipule l'autre. À travers cet entretien sur lequel repose le film, apparaît la tragédie d'une femme d'eux, en l'occurrence ici une femme de président, qui une fois devenue veuve doit quitter d'un jour à l'autre son confort, la Maison Blanche qui fut son foyer pendant 2 ans, et s'interroger sur son avenir. Pablo Larraine, réalisateur chilien très en verve en ce moment, puisqu'il a déjà sorti un biopic il y a quelques mois à peine autour de l'écrivain Neruda, s'attaque ici à un biopic partiel, puisqu'il s'agit de raconter la plus emblématique des premières dames, Jackie Kennedy, à travers un moment bien particulier de son existence, en fait un point de bascule qui va la faire passer de célébrité à véritable icône.
Jack, can you hear me?
Voilà, alors ce que l'on entendait en l'occurrence, c'était le crâne de Kennedy qui explosait sur sa femme. Alors j'ai lu une critique intitulée « Jackie, c'est beau, c'est bien, c'est chiant ». Je vais essayer quand même d'étoffer un peu, mais ça résume assez bien ce que l'on se dit en sortant de la salle. Pablo Larraine fait le choix de la déstructuration du récit, avec un montage mélangeant des bribes de passé, de présent et de futur, évitant ainsi de sombrer dans un récit linéaire, mais ce qui n'empêche pas pour autant d'être assez lent et par moments assez ennuyeux. Alors heureusement, pour nous occuper un peu, nous avons Nathalie Portman dans le rôle principal, qui est d'une ciné-génie absolument incroyable, qui habite véritablement chaque plan. La photographie du film la sublime, la rend encore plus iconographique qu'elle ne l'est déjà. Ça en fait une candidate sérieuse à l'Oscar. Le souci, c'est que son personnage n'est pas très sympathique, du moins pas à cette période de sa vie. Bon, en même temps, c'est vrai que son mari vient de mourir devant elle, c'est normal, mais le film reste volontairement trop en surface, renonçant à la rendre humaine et donc touchante. On a un peu de mal à plaindre cette femme qui a clairement réalisé un mariage d'argent, comme cela se faisait à l'époque, et qui est surtout régie par l'envie de garder la face devant les médias et devant le reste du monde. À travers une mise en scène solennelle qui semble saluer chacune de ses actions, le film élève Jackie Kennedy au rang de sainte, et ce n'est pas ce que le spectateur est venu chercher. On aurait préféré sentir des failles, des fêlures. Alors on sent parfois poindre l'onirisme lors de scènes où la veuve noie son chagrin dans l'alcool, mais en fait c'est assez frustrant parce que finalement Jackie Kennedy bourré reste quand même classe. Donc là encore, ce n'est pas ce qu'on est venu chercher. Alors la mise en scène confine parfois à la claustrophobie. Elle enferme son personnage dans une maison blanche de devenu un mausolée et puis devenu ensuite une prison. Jackie est donc un film volontairement sinistre, mais formellement époustouflant, optant pour une alternance de plans larges et fixes et de très gros plans afin de souligner la solitude de l'héroïne et les pressions qui pèsent sur elle. Et quand elle ne pleure pas dans sa chambre, eh bien Jackie Kennedy se confie à Bobby Kennedy, le frère de son défunt mari, ou à un prêtre, interprété ici par le regretté John Hurt. Alors ses apartés sont belles, bien dialoguées, entre considérations sur le fait d'être une femme, puisqu'à l'époque, une femme se définissait à travers son mari, et réflexion sur le pouvoir et sur la représentation médiatique. Mais finalement, eh bien, on n'en apprend pas beaucoup plus que dans un article de Madame Figaro. C'est un peu dommage, mais encore une fois, il y a vraiment Nathalie Portman et elle est époustouflante. Mmh.
Et donc, ça marque une petite distinction avec les réalisations précédentes, j'imagine, en termes de mise en scène. Il est habitué à des films fantaisistes. Là, pour le coup, Pablo Neruda en est un exemple. On ne l'a pas chroniqué. Donc, merci Marine. On va passer maintenant à ce que vous attendez tous, j'imagine. C'est le blind test spécial comédie musicale.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Comédie musicale, voilà, parce que La La Land est sortie, personne l'ignore. Les gens se précipitent dans les salles. Et on va écouter donc 5 extraits et un petit bonus.
Ton feu nourri de questions sur le pourquoi du comment de mon cœur et ses raisons ne trouve pas de répondant. Je ne manque pas de bonnes raisons pour t'aimer. Je ne vois pas pour quelles raisons te les donner. Mes bonnes raisons pour t'aimer, pourquoi te les donner?
Et c'était facile.
Bah oui, Christophe Honoré, enfin.
Et oui.
Les chansons d'amour.
Les chansons d'amour, film de 2007, un autre extrait. Oui, c'est facile, Marine.
Oui, c'était facile. C'était Dancer in the Dark, de Lars von Trier, le film le plus triste de tous les temps.
Effectivement, c'est plutôt... on parle de comédie musicale, mais là, c'est mélodrame musical. C'est une coproduction 10 pays et donc toutes les scènes de musique. Alors normalement, la comédienne, celle qui est devenue comédienne, mais Björk, qui est avant tout chanteuse, devait seulement composer les chansons et la musique du film. Mais donc, elle a dû jouer dans ce film. Et ça a été une expérience traumatisante, bah, comme parfois ça arrive. Film,
elle a arrêté le métier.
Bah, surtout avec Lars von Trier, je pense.
Et surtout avec Lars von Trier. En tout cas, ce qui était nouveau, c'est que le film avait été entièrement tourné en numérique et pour les séquences dansées et chantées, Lars von Trier a utilisé plus de 100 caméras numériques, voilà, dont certaines ont été gommées. Voilà, c'était pour donner une impression de, eh bien pour pouvoir tout capter. Ouais. Et je pense que ça marche, d'ailleurs, notamment dans cette scène. On passe à un troisième extrait.
Yes, it's true. There's a child and the child is my daughter. And the father abandoned us, leaving us flat. Now she lives with an innkeeper man and his wife, and I pay for the child. What's the matter with that?
At the end of the day, she'll be nothing but trouble. And there's trouble for all, and there's trouble for one. While we're earning our daily bread, she's the woman that ran to the butcher. You must send the slugs away, or we're all gonna run to the gutter, and it's all still after pay. At the end of the day.
Alors, là, je vous sèche. Bah oui, ça commence à devenir un peu difficile, mais. Alors, effectivement, c'est une comédie musicale qui n'est pas très vieille. Alors, si ça marche pas avec les filles, on va essayer avec les garçons.
Yes, 24601.
My name is Jean Valjean.
And I'm Javert. Do not forget my name. Do not forget me. 24601.
Look down.
Voilà, donc avec les hommes, c'est plus facile.
D'autant misérable.
Voilà.
J'ai entendu Jean Valjean, donc oui. C'est misérable.
Et c'était Hugh Jackman et Russell Crowe. Voilà, oui. Donc facile à entendre. Quatrième extrait.
Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne parle pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quitte pas.
C'est le réalisateur de comédie musicale français.
Jacques Demy.
Voilà. Et c'était donc Les
Demoiselles de Rochefort. J'allais dire de Cherbourg.
Mais... voilà, c'était trouvé. Mais j'ajouterais, enfin, je dirais aux auditeurs que d'abord vous avez dit peau d'âne, ensuite vous avez. Voilà, et...
puis elle.
On va tout essayer.
Allez, dernier extrait. Voilà, ça a été trouvé, c'est facile.
R.
Voilà, R, mouvement hippie et guerre du Vietnam. C'était la seule comédie musicale que j'ai prise en extrait, là, qui concernait les années 70. Sinon, c'était années 60, 2000, et voilà. Allez, un petit bonus pour se quitter.
C'est le morceau de sucre qui aide la métina à couler. La métina coulée, métina coulée, juste un morceau de sucre qui aide la métina coulée, ça vous rend la vie plus belle.
Ah oui, bon, ben voilà, c'était Mary Poppins pour achever ce blind test. Et c'est vraiment sans transition qu'on va passer de Mary Poppins à l'histoire eh bien, de la recherche d'identité d'un gay noir aux États-Unis.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Pour sa sortie en France en première semaine, Moonlight s'est classé à la 11e place du box-office avec 89 822 spectateurs sur seulement 86 écrans, ce qui est une belle performance et probable qu'il ouvre les portes de d'autres cinémas qui aimeraient faire recette. Le succès de Moonlight est autant critique que public. C'est dans une salle pleine que j'ai pu voir ce film de l'Américain Barry Jenkins, dont c'est le deuxième long métrage. On a vraiment deux expériences différentes, Manu. Toi, tu vas voir des films où vous êtes quatre et moi, je vais voir des films vraiment où la salle est vraiment pleine. Alors, il raconte une histoire qui n'est pas inspirée d'une véritable trajectoire, celle de Chiron, un noir qui vit à Liberty City, un quartier de Miami où les dealers ne sont jamais loin. De Chiron, nous allons voir plus de 15 années de sa vie, de son enfance en passant par l'adolescence et puis sa vie de jeune adulte. Preuve que le film est réussi, on n'a pas le temps de se demander si c'est le même personnage, s'il lui ressemble physiquement. On a là trois personnages qui incarnent parfaitement l'image qu'on a de Chiron. Alors, dans la première partie, Chiron se fait appeler Little, et là je démontre comme on s'arrache des soupirs, les autres lui reconnaissent quelque chose de particulier qui lui font payer. Les autres disent de moi que je suis une tapette. C'est quoi une tapette et comment je sais que j'en suis une? C'est ce qu'il demande au dealer qu'il a pris sous son aile. Alors, le dealer lui répond, ne laisse pas aux autres dicter ce que tu es. Donc bon, ça c'est du classique, mais finalement ça fait pas de mal. D'autant qu'ici, eh bien, on est dans les codes du film de gangster, mais avec un dealer qui est vraiment à contre-emploi. Little trouve chez lui nourriture, écoute, bienveillance et de quoi s'émanciper, pas une PlayStation avec des copains qui écoutent du rap à longueur de journée. Moonlight, c'est le questionnement d'une identité dans un environnement inhabituel. Chiron est un noir du ghetto avec une mère qui se démolit au crack, mais il n'est pas question ici de surligner l'environnement. Ce qui frappe dans ce long métrage, qui a raflé le Golden Globes, du meilleur film quand même, c'est la douceur et l'empathie pour les personnages qui s'en dégagent. Dans la seconde partie, alors que Chiron est adolescent, souffre douleur des crétins de sa classe, devenu le banquier de sa mère, décidément accro au crack, eh bien il va vivre à la faveur d'un clair de lune, et là on a fini de se demander pourquoi ça s'appelle Moonlight, il va vivre une révélation qui sera anéantie par une désillusion quelques temps plus tard, mais cette fois-ci dans la clarté du jour. Dans la dernière partie, nous aurons encore une autre image de Chiron, toujours plus âgé, toujours en quête de son identité. Il est alors prêt à s'inventer un personnage pour mieux déjouer les regards et les jugements avant que son passé eh bien, ne lui reviennent et lui permettent de se livrer. Alors si le film se concentre sur trois périodes distinctes, avec des ellipses temporelles assez conséquentes, jamais nous ne perdons de vue le personnage et sa quête d'identité. Fait remarquable, dans Moonlight, il n'y a que des hommes et des femmes de couleur noire. L'absence de blanc nous enlève le questionnement sur la minorité, ça n'est pas le sujet, même si avec un effet de mise en scène, on n'ignore pas d'autres aspects de la condition de Chiron. L'essentiel du film se passe sous les tropiques à Miami, mais nous n'en voyons que la lumière, pas la plage, ou alors le réalisateur reste concentré sur son personnage. Miami et l'image qu'on en a, finalement, reste hors champ. Le réalisateur reste dans le drame, mais sans lourdeur. Dans une interview donnée au quotidien Le Monde, il a précisé que, vu son sujet, eh bien, en fait, il aurait pu faire un truc à la Dardenne. Alors, je le cite, un truc à la Dardenne, en gros, une colorimétrie très grise, caméra à l'épaule. C'est évidemment tout le contraire qu'il a fait. La caméra est soit posée, soit obéit à un mouvement géométrique et nous restons dans la lumière des tropiques avec des fringues années 80, 90 ou 2000, selon l'époque. Le réalisateur ponctue son récit de quelques effets de mise en scène suffisamment discrets pour ne pas empouler son propos. L'essentiel est ailleurs, dans la résolution de cette identité que les autres ou la société ou la culture a enfouie chez Chiron. Le soin apporté aux personnages secondaires, mais vraiment déterminant, est également une réussite, tout comme l'utilisation du son, qu'il s'agisse du volume des voix, selon les personnages, ou l'utilisation des silences, c'est-à-dire comment le bruit de fond en fait entoure une discussion et un dialogue que peuvent avoir deux personnages. Alors sans doute la pièce autobiographique dont est tirée Moonlight était déjà bien écrite, ce qui facilite la tâche, mais Barry Jenkins l'a sublimée avec des armes cinématographiques. J'ai l'impression que tous les spectateurs étaient ravis et que les critiques le sont tout autant, sauf les cahiers du cinéma qui n'ont pas aimé, mais ils ont cette petite habitude.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors curieusement, concernant le titre français, on se retrouve avec le cercle au singulier accolé d'un étrange rings au pluriel, ce qui peut laisser un peu circonspect le spectateur quant à l'intention réelle du projet. Alors en fond, ça renvoie à la franchise, à son, on dirait, à son incohérence intrinsèque, parce que j'ai pas compris pourquoi il y aurait plusieurs cercles ou un seul cercle. Enfin...
Ah, ça commence bien ta chronique.
Bah oui, mais mais c'est pas grave si on comprend pas. Enfin, avait-on besoin de se taper en fait un remake de remake à une période où déjà le cinéma de genre en panne d'inspiration n'en finit plus de tourner en rond, sans mauvais jeu de mots. Hein. Bon, n'exagérons rien et prenons le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire pas grand-chose, soit une petite série B inoffensive qui capitalise sur un passé sans savoir quelle direction emprunter. Alors ça commence par une séquence complètement débile et inutile dans un avion, censé nous remémorer l'origine de l'histoire, à savoir une ghost story classique intégrant l'élément central de la franchise, la fameuse cassette qui tue. Alors la suite ne vaut pas mieux. Hein. Sur une brocante, un professeur achète un vieux magnétoscope comme s'il s'agissait d'une pièce de collection, un objet vintage précieux d'une valeur inestimable. Alors obsolète, je veux bien, mais rare, laissez-moi rigoler quand même, à mon avis, on peut encore en acheter des neufs. Donc on le voit après chez lui en train de réparer cet objet précieux pour qu'il fonctionne, hein. Ce qui est quand même un peu bizarre. Hein. Bref, les auteurs visent là clairement un public jeune et novice qui n'ont certainement jamais vu le magnétoscope de leur vie.
Jamais mis une VHS dans le
magnétoscope. Jamais mis une VHS à l'intérieur. Alors, et en plus, pas forcément familier avec l'univers de Ring. Alors, sinon... Bah, le scénario reprend, on va dire, dans les grandes largeurs, la trame des précédents opus de la série, alors s'inspirant aussi de la fameuse légende.
Il était une fois une fillette dont personne n'ose prononcer le nom. De l'au-delà, elle veut se venger d'une vie de désolation. Si vous regardez son histoire... Vous n'avez plus que 7 jours à vivre. Et il n'y a aucune chance que son pardon vous délivre.
Voilà, à partir de là, l'histoire peut commencer. En fait, on apprend ça quand même aux 3/4 du film. Hein. Alors, c'est l'héroïne Julia, elle n'a plus de nouvelles de son petit ami, parti à la fac. Inquiète, elle décide de le rejoindre et découvre qu'il s'intéresse donc au mystère entourant une vidéo censée tuer celui qui le regarde 7 jours après l'avoir visionné. Alors pire, l'ayant donc regardé, ses jours sont comptés. Seule solution, la faire voir à une autre personne. Alors dans un pur élan d'abnégation, alors ça c'est bonjour la magie du cinéma, Julia se sacrifie pour sauver son homme et fait alors une terrifiante découverte. Il y a un film dans le film que personne n'avait encore vu. Alors voilà pour la nouveauté, même si je me demande si on ne l'avait pas fait le coup dans les précédents déjà. Mais comme je ne les ai pas tous revus, oui. Vu qu'il y en a en tout 5 quand même, 3 japonais et 2 américains. Bref, rien de neuf au pays d'une série qui commence sérieusement à ronronner, hein, entre jumpscares convenus, des inserts récurrents d'images issues de la vidéo et révélations faisandées. Le cercle, Rings, échoue sur tous les tableaux, amnésique de ses propres références, espérant séduire un public ignare et, comme je le disais au départ, très jeune, à mon avis, vu le nombre de gens qu'il y avait dans la salle. Parce que là, j'ai été voir un film où il y avait beaucoup de monde, quand même. Hein.
Surveillez vos enfants, ça veut dire, c'est ça. Hein, le...
Non, pas du tout. Surtout qu'ils évitent de brailler, parce que maintenant, les films d'horreur, c'est devenu un lieu de...
La foire.
C'est un peu la foire.
Le défoulement, hein. Ok.
Alors, on est loin du beau film d'Hideo Nakata, hein, qui jouait sur une peur lancinante et qui possédait une vraie densité mélancolique. Ce remake poussif, réalisé par l'Espagnol Javier Gutiérrez, peu aidé par ses nombreuses invraisemblances et son manque de rythme, ne fait que confirmer le manque d'ambition du cinéma d'épouvante contemporain, au point de penser que la version américaine de Gore Verbinski avec Naomi Watts, très décriée à l'époque, passerait presque pour un chef-d'œuvre à côté. Reste l'apparition saisissante de Vincent D'Onofrio en ex-prêtre aveugle, comédien remarquable et un peu oublié aujourd'hui, hein, qui bien sûr jouait dans Full Metal Jacket et dans Ed Wood, où il interprétait Orson Welles.
C'était le film à ne pas voir.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Ainsi s'achève Cinérama. La semaine prochaine, nous aurons deux interviews.
Celle... Oui, dont Rock'n'Roll, l'interview de Guillaume Canet pour son nouveau film.
Et puis celle de Philippe Lachaud pour Alibu.com. Et puis, eh bien, nous aurons vu aussi des films qui sortent la semaine prochaine. Bref.
Loving, entre autres.
Nous avons déjà le sommaire.